Bazooka!
Bonsoir, bonsoir, vous écoutez Radio Panique sur le 105.4 FM sur Bruxelles, enfin ceux qui sont à la bonne hauteur pour l'écouter, et du bon côté de Bruxelles, vous l'écoutez en streaming sur radiopanique.org et vous écoutez en podcast sur notre site, le site de Djiboutique, puisque c'est le jour de l'émission Djiboutique entre 18 et 19h. Djiboutique, l'émission qui vous parle des musiques et des cultures du monde, c'est aujourd'hui. On va recommencer d'ailleurs un nouveau cycle, puisque nous accueillons de nouveau Michel de Meuldre, avec qui nous avons fait de nombreux cycles. Et là, ben voilà, c'est la reprise, et Michel est là. Bonjour Michel.
Bonjour Hubert. Aujourd'hui nous allons... Enfin, je vous invite tout le monde qui écoutait l'émission à vous plonger avec délice dans un monde sonore beau et étrange. En effet, de mon point de vue, le pays européen qui dispose de traditions polyphoniques les plus riches et les plus originales, aussi bien vocales qu'instrumentales, est sans conteste l'Albanie du Sud, en particulier les Tosques. Hein, c'est une langue, le Tosque. Qui pratique la polyphonie horizontale, présent aussi en Calabre. On les appelle les Arabesh ou Araberesh.
Peut-être, avant que tu commences vraiment à te plonger dans ton sujet, explique-nous un peu peut-être le cycle que tu nous proposes, plusieurs émissions sur les polyphonies européennes, si j'ai bien compris.
Ça dépend si on a le temps, mais oui, on peut faire plusieurs polyphonies, notamment sarde, corse, même, comment dirais-je, il y a des polyphonies même en Macédoine. Enfin, il y en a plusieurs en Europe, mais je voudrais plus tard élargir à l'Éthiopie, qui a de très belles polyphonies, au Caucase, avec les Géorgiennes en particulier, qui sont les plus belles polyphonies avec les Albanais. Mmh. Et il y a des polyphonies en Asie aussi, mais on peut même prendre du côté de l'Afrique du Sud, chez les Xhosa et tout ça, il y a des formes de polyphonie, et surtout les populations batois, les pygmées, donc.
Hein, ben oui.
Ils pratiquent une polyphonie très, très particulière, dont ça serait intéressant de parler.
D'accord. Enfin, voilà, donc, tu penses faire un cycle de plusieurs émissions où on voyagera dans le monde des polyphonies.
Voilà, par exemple.
Oui. Voilà. Ouais. Ok, écoute, parfait. Alors, moi, je suis vraiment enchanté. C'est un sujet, je pense, qui va valoir la peine à écouter. Enfin, on va écouter les chansons aujourd'hui. Pour le coup, le fantôme de Djibouti qui est arrivé.
Voilà. Voilà, Thierry.
Sans tambour ni trompette.
Non, non.
Comme dans les polyphonies, finalement, voilà, voilà. Puisqu'il n'y a que de la voix dans les polyphonies.
Ouais, mais pas tout à fait, pas que.
Pas, ouais, que. Pas que. Ici, on va même entendre des polyphonies instrumentales.
Ah
ah. Alors,
je propose qu'on passe
tout de suite, suite de la musique.
Les premières polyphonies vocales.
D'accord. Eh bien, écoute, nous allons nous y mettre.
Ce sont des tosques et des labs. Plus précisément, je crois que les premières sont labs. Les labs, c'est à la frontière de l'Épire grec. Et ils sont d'ailleurs, pour la plupart, grecs orthodoxes. Enfin, je veux dire, ils parlent le lab, qui est un parler albanais, mais ils sont de religion orthodoxe. Albanese, Donc, ici, donc, nous avons entendu surtout des lamentations, hein, mais il y a tout un tas de formes de polyphonie dans l'Albanie du Sud. Et Ismaël Kadare pense que Homer, quand il raconte l'Odyssée avec Ulysse qui se fait attacher au mât pour ne pas répondre au chant des sirènes, il fait allusion à ces polyphonies du sud, de l'Albanie, sur la côte. Hein, voilà. Donc, on va encore écouter différentes formes de polyphonie.
Oh, sinner. pieviti telia i som bandit skii pajure
На пиеста се чкрушила.
Michel, on dirait qu'on fait un bond à la fois dans l'espace et dans le temps. Ces chansons ont l'air immémoriales. Tu me disais qu'elles étaient probablement plus anciennes que l'époque byzantine.
Oui, en ce sens que, en même temps que les Bulgares, hein, les polyphonies bulgares, les fameuses voix des femmes bulgares, étaient présentes déjà dans les populations slaves, dans toute la Sibérie, dans toute la zone russophone. On pratique la polyphonie bien avant leur... Quoique, il y a une chose assez amusante, c'est que quand une population musulmane devient chrétienne, elle adopte la polyphonie dans l'empire des tsars. Quand, par exemple, une espèce de Kazakh ou de population là-bas se convertit au christianisme orthodoxe et en même temps devient Cosaque, donc c'est-à-dire gardien de la frontière de l'Empire du Tsar, ils vont faire des voix polyphoniques.
Y compris dans des répertoires qui ne sont pas religieux, tu veux dire?
Ah oui. Okay. Maintenant, je me pose la question, pourquoi est-ce que les musulmans en général... ne pratique pas beaucoup la technique polyphonique. Est-ce que c'est parce que, d'abord, le chant en tant que tel n'est apprécié que dans le cadre du mysticisme soufi. Or, les soufis, avec les chœurs de trance, hein, de zikr, qu'ils appellent le sama, bon, à ce moment-là, tout le monde fait la même voix et de gorge et de souffle comme ça. Donc, je dirais que l'islam a plutôt une esthétique à la fois de culmination, on monte de plus en plus haut, mais en même temps une esthétique chorale comme ça. Hein. On est tous égaux. En quelque
sorte. Tous le même ton.
Voilà. Alors que chez les orthodoxes, c'est plutôt la coopération qui, qui, qui est mis dans...
Est-ce que ce n'est pas aussi une espèce de compétition entre les voix? La voix qui montera le plus haut, je ne sais pas. Hein,
mais c'est dangereux, la compétition. Hein, c'est comme avec les Diables Rouges. Hein, il faut un minimum de d'esprit d'équipe. Surtout quand tu vois, par exemple, les voix en Sardaigne, par exemple, polyphonie sarde, des ténors et des biti et tout ça. Il y en a qui ne font qu'une seule chose. Hein, bim, bidi, bom, bidi, bom, bidi, bom. Pardon. Donc, il ne va pas pouvoir monter au-dessus de l'autre.
Hein. D'accord.
Donc, mais bon, pour revenir à... Ici, nous allons encore écouter quelques polyphonies. On est à quel numéro ?
On est au numéro 3.
Ouais, et bien alors, voilà. Écoutons le 4, alors. 3 et 4, oui.
C'est extrêmement complexe, ces polyphonies, Michel.
Voilà. Donc ici, nous étions en Pays Lab. C'est une petite alors, zone de terrain.
C'est étonnant d'entendre des chants de gorge en dehors de la Mongolie. Il y avait des espèces de voix très gutturales comme ça.
Oui.
Et donc, ils le font ça aussi dans cette région-là.
Voilà. Donc, il y a toutes sortes de techniques. C'est pour ça qu'on dit que c'est vertical, parce qu'il y a plusieurs niveaux de chant. Et alors, la capitale, si on peut dire, de cette région, c'est Girocaster. Et quand j'étais jeune, j'écoutais les petites ondes. Hein, j'écoutais Radio Tirana sur 25 mètres, 31 mètres, 41 mètres. Et j'entendais tout le temps des musiques Lab. Et alors, ce n'est qu'après, quand j'ai demandé à mon voisin qui a une pizzeria qui est Lab, hein, bon, j'ai demandé comment ça se fait que c'est toujours la musique de ta région qu'on entend et pas d'ailleurs. Mais il dit c'est parce que le dictateur Nderoja, hein, pendant qu'on était de Girocaster. Et c'est pour lui faire plaisir qu'on lui repassait tout le temps des polyphonies de Lab. Quoi, voilà. Ça, c'est la petite histoire. Donc, on va écouter quelqu'un de l'époque de Enver Hoxha. C'était le héros absolu de la clarinette et de la musique de Lab. Il s'appelle Laver Barriou. Laver Barriou, vous pouvez regarder sur Wikipédia ou n'importe où, c'est le champion toute catégorie de clarinette. Il chante avec un Vasque Curry. Alors, Kenge, ça veut dire une chanson, voilà. Donc, on écoute cet remarquable chanteur, clarinettiste, avec en même temps cette polyphonie vocale qui se mêle à la clarinette.
Voilà des musiques bien entraînantes, Michel.
Ah oui. Eh bien, maintenant, nous allons passer directement à une musique que je dirais presque qu'il faut écouter religieusement, parce que c'est vraiment, il y a une intensité oui, religieuse au sens où c'est très intense comme expressivité. Bon, c'est la famille... oui, j'ai oublié de dire que la Verbario est un tzigane. Et idem, nous allons entendre une famille, la famille Lella. Hein, cette famille chante de façon très, 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 très émouvante, je trouve. On va écouter cette polyphonie.
Moi, твою немедленно. Это мой тюмость дала, дала дыши. Курта, апа, дя, мой дя.
Donc voilà, c'est un, me semble-t-il, un morceau très prenant, très touchant.
Tu sais, Michel, ça me rappelle une de tes vieilles marottes, la délectation morose. On sent oui, bien qu'il y a quelque chose de très mélancolique là-dedans, mais ils font traîner, ils font...
Oui, des notes tirées comme
oui,
ça.
Oui, oui. Est-ce que tu as une idée de la signification des textes ou le sujet des textes?
Très souvent, on a affaire à des chants qui sont à la fois épiques et des lamentations. Donc il y a souvent des héros qui sont martyrs ou des gens. Mais ici, dans cette chanson-ci, il y a aussi des questions d'amour. Hein, l'amour contrarié, bon, ça c'est général dans ce genre de musique, quoi. Maintenant, ce que nous allons entendre, c'est assez déroutant aussi parce que ce sont les Arabes Rush, ce sont les Albanais qui, à l'époque, au XIVe siècle et tout ça, étaient orthodoxes grecs, mais qui, sous la poussée assez brutale, je veux dire, des armées ottomanes, ont été se réfugier en Calabre et nous écoutons maintenant des chorales albanaises, mais de Calabre.
Thank you.
Donc là, c'est un exemple de polyphonie sans voix, si j'ai bien compris.
Mais alors, peut-être qu'on peut expliquer ce que ça veut dire polyphonie, parce que je suis un peu perdu. Polyphonie, ça n'a pas à voir avec les voix, ça a à voir avec quoi, en fait ? C'est quoi
en principe,
principes de base de la polyphonie ?
Le violoniste s'accroche à ça. Mais il y a la clarinette qui vient. On entend déjà un peu le luth qui fait le bourdon derrière, mais la clarinette,
Donc, qu'est-ce que ça veut dire polyphonie ? Ça veut dire qu'il y a plusieurs voix, mais ce n'est pas des voix humaines.
Alors ici, de toute façon, je me suis trompé quand j'ai dit que c'était italien. Ce n'est que maintenant qu'on va écouter des Italiens. Ici, c'était encore, on était en plein lab, dans zone de frontière grecque.
Et pour répondre à la question d'Hubert, en fait, ici... C'est le violon et la clarinette qui font office de voix. Donc, c'est la dynamique entre les deux instruments qui nous permet de dire que c'est de la polyphonie.
Elle imite vraiment les voix, quoi.
D'accord.
Oui.
OK. On écoute Arabesque de Calabre.
Alors, voilà. C'est italien, ça. Voilà. Eh bien, on retrouve l'art polyphonique des Albanais. Bon, je ne sais pas si ces Albanais d'Italie sont des anciens Lab ou Tosk. Ce qui est certain, bon, si on regarde la carte de l'Albanie, le nord de l'Albanie est peuplé de Gaze, c'est-à-dire une langue albanaise, le Gaze. Bon, alors, il y a trois dialectes Gaze d'ailleurs, les Kosovars par exemple, et les Albanais de l'ouest de la Macédoine, Monténégro et tout ça, ce sont des Gaze. Par contre, le sud de l'Albanie, ce sont des Tosques, à la frontière vraiment grecque, ce sont des labes. Donc, maintenant, nous allons entendre des tosques, donc des chœurs tosques. On verra s'il y a une petite différence. Effectivement, comme je disais tout à l'heure, c'est une isopolyphonie en longueur plutôt que horizontale plutôt que verticale. Donc, je rappelle que partout, on a un isone, c'est-à-dire en grec, la basse, enfin, basse continue, une espèce de bourdon qu'on a dans pas seulement dans... on ne sait pas si, au fond, c'est l'origine, c'est le christianisme byzantin ou c'est les byzantins ont repris les techniques... De tous ces pays, parce que l'isone, enfin la basse continue, existe aussi bien en Inde, avec le tempura, qu'en Arménie ou bien ailleurs, qui n'était pas byzantine. Donc moi je serais plutôt de croire que les Byzantins ont pris ce qu'il y avait sur place. puisque ça se trouve aussi chez les populations slaves, comme les Bulgares et tout ça. Bon, donc ici, nous allons encore entendre ces fameux tosques. On verra la différence avec les labes.
Quelle richesse, Michel. On disait que sur un petit territoire comme l'Albanie, c'est hallucinant de voir le nombre de types de polyphonie, le nombre de musiques différentes. Et on imaginait que ça devait être lié à la géographie du terrain qui est très accidentée, où il y a beaucoup de gens qui sont isolés. Et...
Voilà. En général, les vieilles musiques traditionnelles, et en particulier les yodel, hein, les polyphonies, ce sont toujours dans des régions montagneuses, dans des vallées isolées, même les tyroliennes, hein, c'est quand même dans les montagnes. Hein, et on a ça en Éthiopie, on a ça en Pissarde ou dans les montagnes de Bulgarie.
Est-ce que c'est une technique pour faire porter la voix plus loin? C'est...
Oui, voilà. Et en plus, les montagnes servent de frigo, je dirais, de culture. Quand on voit, par exemple, le Liban, si le Liban a des minorités religieuses aussi nombreuses, c'est tout simplement parce qu'il y a beaucoup de vallées et beaucoup qui sont isolées. Hein. Donc, on peut expliquer toute l'histoire du Liban et de ses cultures à travers les montagnes du Liban. Hein. Pratiquement, les envahisseurs passaient toujours sur la côte, hein, en terrain plat, et les anciens se réfugiaient dans les plateaux et dans les montagnes. Alors ici, nous allons entendre justement un style d'un groupe d'Albanais particulièrement intéressant, qu'on appelle, que les Albanais appellent Cham, et que les Grecs appellent Tsamides, hein, parce qu'ils ne savent pas dire Cham, alors ils disent Tsam. Et les Tsamides sont à l'origine de la danse Tsamiko, du nord de la Grèce. Donc d'ailleurs, en épire grec, il y a le Tsamiko comme danse, la danse du mouchoir ou le tif et tout ça. Alors, du
Patrick
côté
Sébastien.
Albanais, il y a aussi des formes de Tsamiko et tout ça, mais légèrement différents. Et donc, de toute façon, ce qui est intéressant avec les Cham, c'est que c'est une population, je vais dire, victime, ballottée entre les Grecs, les Turcs, les Albanais, puis pendant l'occupation italo-germanique de 40, comme les Grecs s'en méfiaient, puisqu'ils étaient musulmans, et qu'ils habitaient tout le nord de l'Épire, en fait. Arta, je me rappelle bien d'Arta, c'était une ville albanaise. Enfin, c'était une ville de Cham. Bon, il faut dire que les Byzantins sont responsables de la présence d'Albanais à des endroits aussi différents que l'Épire, que le Bey, hein, la région là de Péloponnèse en face de la Morée. Bon, tout ça, pourquoi ils les appellent Arvanites, Albanais, quoi, Arvanites. Et ces Arvanites étaient utilisés par l'Empire byzantin un peu comme des Cosaques, c'est-à-dire des gens qui gardaient les frontières. Et les frontières en grec, ça se dit Akra, dont on les appelait Akrites. Et Donna Samuel a fait des enregistrements de chants épiques, hein, des héros parmi les Akrites. Donc, les héros des luttes contre les Ottomans, c'était ces Albanais-là. Donc, il faut dire aussi que, pratiquement, l'Empire byzantin a toujours été défendu par tout sauf des Grecs. C'est-à-dire que la cavalerie, hein, la plus connue des Byzantins, c'était, tenez-vous bien, des Vikings. En effet, c'était les Vikings, les Normands, qui descendaient le long du Dnieper, hein, et qui ont pris la ville de Rus, qui ont fait la capitale de leur État, hein, d'où le terme de Russie. Mais c'est en Ukraine, donc ils ont réduit en esclavage les Ukrainiens. C'est pour ça que le mot esclave vient du mot slave. Hein. Et donc, ces Vikings avaient une cavalerie redoutable, hein, qui est devenue, enfin, qui se vendait, hein, comme mercenaires aux empereurs byzantins, surtout pendant la période d'or des paléologues. Hein, donc, il y avait à la fois des Albanais qui étaient des soldats paysans, hein, comme les Cosaques. Et c'est le malheur d'être le défenseur de la patrie. C'est un peu comme les harkis, hein, en Algérie. On est toujours victime d'être considéré comme des traîtres. Et les Cham ont été considérés comme des traîtres par les Grecs, alors que les Grecs ont fait tout pour en faire des victimes. C'est-à-dire qu'au moment de l'indépendance, ils ont voulu les échanger contre des populations grecques qui étaient restées en Anatolie. Donc en 1922, ils voulaient peupler ce qu'on appelait la Chamerie, la région des Chams, en Épire. Ils voulaient la peupler par des Grecs qui venaient d'Asie mineure. Donc, ils perdaient on chassait ces gens-là, qui étaient des paysans. Et du coup, les Turcs ne demandaient pas mieux. Hein. Donc, il y avait l'échange entre... On a même envoyé des Yuruks. Les Yuruks, c'était des Turcs qui étaient chrétiens, orthodoxes, ou des Caramanlı. Cara, c'est noir. Hein? Caraman, c'est une ville chrétienne en Turquie. Et le Caramanlı, le, c'est l'article en turc. Hein? Caramanlı, arrivé en Grèce, on les a appelés Caramanlis. Il y a eu des ministres Caramanlis et tout ça. Donc, il y a eu tout un brassage de population. Et le malheureux Cham, quand, en 40, il y a eu une toute petite période où il y a eu un premier ministre, enfin un dictateur même, Theodoros Paraglotas, qui était lui-même albanais, albanophone en fait. Donc il a voulu protéger les Albanais de moins leur propriété, hein, parce qu'on voulait confisquer tout ce qui était aux Albanais. Alors, mais il y a eu un coup d'État après, et Venizelos et Metaxas, leur dictature était très nationaliste, et pas seulement contre les Albanais, mais aussi contre les Roumains, les Aroumains, qui parlaient un vieux roumain, on les appelait plutôt des Vlaks, des Valaks, et aussi les Roms. Donc, les trois minorités, c'était marqué sur la carte d'identité. Donc, jusqu'à peu, c'est l'Europe qui a exigé que la Grèce supprime la mention de religion sur la carte d'identité.
Michel,
qu'est-ce que ça a eu comme conséquence au Rwanda, hein.
Rwanda, ouais.
Bon, Michel, alors, je termine. Je pense qu'on écouter... arrive à la fin de l'émission. Donc, oui. Si on veut écouter la chanson des Shams...
Voilà, écoutons-la.
Et ben, on va se quitter là, hein, je pense.
Oui,
que,
voilà, parce
que
bien, là, ça va.
On et
va
on te retrouvera avec grand plaisir.
Alors, n'oublions
pour
pas quand même,
histoire.
Il faut le dire, qu'il y a à Skanderbeg la seule statue de Skanderbeg qui était un héros de l'indépendance, mais qui avant était un janissaire de l'armée ottomane. Voilà.
Bonne soirée à tous.
Merci. Salut, à bientôt.
Ouais, à très bientôt.
ce lu a gremisici.